90. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un peu de sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en grève,
ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu, il est 19h03 et c'est l'heure du Canu Info.
Et alors, et bah, ce soir, on va commencer par vous parler évidemment violence policière et tout ce qui s'est décliné et déplié après le meurtre de Naël par un keuf mercredi à la semaine dernière.
Et puis au niveau du national, on vous parlera ensuite d'un autre mort, Damara Diomassi, mort sur un chantier des Jeux Olympiques.
Et puis bah, pendant que les flics se défoulent dans les quartiers, il y a aussi des gens qui luttent un peu pour les services publics et des agents des services publics qui se mettent en grève.
Et on ira du côté du logement pour vous parler du cadastre squat.
Il y aura évidemment la rubrique animaux avec l'animal surprise de la semaine.
Et on finira par notre traditionnel agenda.
Voilà, bonne écoute à toutes et tous, et si vous voulez nous appeler pour le ACAB, c'est évidemment possible, et ça se passe au 04 78 39 18 et 15.
Et il n'y a pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police mutile, la police assassine, qu'elle soit de droite ou socialiste, la police mutile.
Violence policière.
Et bah oui, effectivement, violence policière encore et toujours, mais peut-être la grosse différence avec ce qui s'est passé mercredi dernier et ce qui se passe d'habitude, c'est que pour une fois, ça s'est vu et c'était un peu plus gros que d'habitude. Du coup, bon, on le rappelle, même si vous le savez déjà, il y a un keuf qui a tiré sur Naël, donc un gamin de 17 ans, qui était au volant d'une bagnole, et le tir a tué Naël qui du coup est parti là-dedans. Mais effectivement, ce qui fait, puisque des flics qui tuent des gens, ça arrive quand même assez régulièrement, on le sait depuis longtemps, mais peut-être ce qui a fait la diff cette fois, c'est que, évidemment, comme d'habitude, les flics ont dit oui, c'est refus d'obtempérer, ils nous fonçaient dessus, on était là, vous savez, on fait un métier dangereux, c'était pour sauver notre vie face à la barbarie et tout le tremblement. Bon, bah, ils ont commencé à raconter ces craques-là comme d'hab, et puis en fait, finalement, bah, y a une personne qui a filmé en fait, le truc, et on voit bien que le flic est en danger à zéro moment. enfants et que juste il tire une balle dans un gamin parce qu'on sait même pas pourquoi, parce que c'est un facho probablement ou pour plein d'autres raisons. En tout cas, certainement la couleur de peau, ça fait partie de tout ça. Enfin bref, du coup la grosse diff en tout cas, c'est que bah, pour une fois le fait que ce soit filmé, ça a permis ce truc de se rendre compte qu'en fait les keufs racontent comme n'importe quoi, mais que d'habitude on a beaucoup de mal à le prouver, alors que là c'était une évidence, c'était une telle évidence que même le gouvernement, et accrochez-vous, dans le gouvernement, même Darmanin a été obligé de dire ah ouais, il y a un problème là. Du coup c'est pour vous dire à quel point ils se sont fait, enfin à quel point c'est gros l'histoire. Alors malheureusement on aurait pu se dire que c'était encourageant, on irait peut-être pas jusque là, en tout cas pour une fois il y avait quand même un positionnement de dire tiens, le keuf a été mis en provisoire, etc. C'était un tout petit peu moins pire que d'habitude. Voilà, le problème c'est qu'en fait il y a tout un tas de gens dans les quartiers qui en ont marre de se faire insulter, de se faire taper, de se faire tuer, etc. par les keufs, et bah effectivement de voir ce truc là de leur père en fait qui s'est fait buter qui s'est fait buter par un flic, et de cette mise à nu du mensonge, etc. Et bah effectivement ça a foutu le feu aux poudres, et en vrai ça fait depuis toujours que les quartiers ils sont maltraités et ils sont systématiquement violentés par les keufs, et du coup bah en fait tout le monde s'est fâché bien fort, et ça a été une première nuit de zbeul mercredi soir, alors surtout en région parisienne, un petit peu à d'autres endroits, mais voilà. Du coup le lendemain, alors là le zbeul, par contre les flics, quand ils tuent des gens on dit un peu ouh, c'est pas gentil hein. Et puis mais par contre quand il y a du zbeul où il y a personne qui est mort, hein, en tout cas personne qui a été tué par les émeutiers et les émeutières, dès le lendemain du coup on a retrouvé un peu le gouvernement et tous les fachos et tous les réacs de tout poil qui sont élevés pour nous sortir leur vomi réac. Il y a eu quand même des sorties vraiment vraiment folles. Dupond-Moretti qui arrive à nous dire alors oui, j'appelle à l'apaisement, parce qu'évidemment ils appellent tous à l'apaisement, parce que l'apaisement on sait pas ce que c'est d'ailleurs, parce que eux ils sont vraiment pas apaisants par ailleurs, mais en tout cas il appelle à l'apaisement, et dans la même phrase il rappelle aux familles qu'il y a des obligations, qu'en gros on peut aller les attaquer au pénal pour des questions d'éducation. Alors c'est pas directement sur ce qu'on fait leur gamin, mais s'il y a des défauts de moralité, alors si c'est Dupond-Moretti qui incarne la moralité, on n'est pas sorti de la merde. Mais en tout cas voilà, tout en appelant à l'apaisement, il s'est permis quand même de dire aux gens qu'ils faisaient n'importe quoi et que vraiment c'était inadmissible. On rappellera que lui, son fils, il est mis en examen pour des histoires de violence conjugale par ailleurs, alors peut-être il faudrait aussi le punir lui au passage, parce que de toute façon il aura aussi d'autres trucs à justifier à d'autres moments. Enfin bref, on a eu ces belles sorties. Bon, Dupond-Moretti, on va pas parler de Darmanin qui dit n'importe quoi. Et on a revu encore ce gouvernement en fait qui n'est pas du tout capable de se positionner contre l'extrême droite, et qui rejoue encore et encore, comme ils le font, et particulièrement depuis ce mandat, sur des positionnements de finalement l'extrême gauche, comme ils aiment dire, donc LFI, hein, on n'est pas non plus sur un truc trop dangereux, ne se positionne pas. Toutes les personnes qui disaient pas il faut s'apaiser et qui pouvaient dire tiens, peut-être il y a des trucs à capter, il y a des trucs à comprendre, en fait il y a des raisons pour lesquelles en fait les gens, à force de se faire péter la gueule tous les jours par les mêmes decks, se faire contrôler tous les jours, en fait ils ont envie de foutre le feu et de cramer, bah oui, ils ont envie de cramer des écoles, évidemment, ils ont envie de cramer des comicos tous les jours, mais dès qu'on pouvait commencer à réfléchir un peu à pourquoi ça se passe, alors là, c'est plus républicain, et du coup, le gouvernement s'est très clairement clivé toutes les prises de position politique. Il y avait d'un côté celles et ceux qui appellent à l'apaisement, donc comprendre les néolibéraux, les réacs et les fachos, et de l'autre côté, tous ceux qui appellent pas à l'apaisement aussi fort, qui eux sont en dehors, évidemment, de comment ils disent, du monde républicain ou de la République, et qui vraiment n'en ont rien à foutre de tout ça. Alors effectivement, il y a aussi des gens là-dedans, on n'est pas obligé d'être pour la République par ailleurs, mais en tout cas, ce clivage-là, c'est-à-dire que l'extrême droite, elle peut être embrassée hyper fort, et du coup, on va continuer avec toutes ces, évidemment, les demandes qu'on connaît, de conditionnement, des allocs, au comportement gentil des enfants, etc. Donc, on est toujours dans les mêmes dynamiques, on va précariser encore plus les précaires en termes de dynamique de genre. C'est beaucoup de mamans célibataires aussi dans les quartiers, et du coup, on va continuer de précariser les plus précaires autant que faire se peut. Voilà, tout ça pour dire, c'était 45 000 keufs qui se sont promenés et qui continuent de se promener, en tout cas jusqu'à hier soir, je crois, dans les villes, enfin dans les rues en France. Et c'est complètement pété, hein, pour vous donner une idée. Quand là, sur les très grosses manifs du 1er mai, c'était 10 000 flics à peu près qui étaient mobilisés. Et pour les émeutes de 2005, on était sur 12 000 flics. Donc là, 45 000, c'est hallucinant. Et par ailleurs, évidemment, avec donc il y a tous les baqueux et les brigades d'intervention, etc. Mais là, il y a aussi le GIGN et le RAID, donc c'est absolument pas le métier. Enfin, eux, qui ont vraiment rien à foutre dans les rues pour faire ces trucs-là, mais qui ont été envoyés. Du coup, c'était le RAID à Lyon, à la Guillotière. Ils s'en sont donnés à cœur joie à grands coups de flashball dans les gueules. Voilà.
Et oui, on peut dire que vers vous, c'était les CRS qui étaient à Wambushu, à Mayotte, qui ont été rapatriés pour venir renforcer la répression. Et du coup, ben, comme tu l'as dit, énormément de flics aillent partout et du coup, énormément d'arrestations. Il y a eu des arrestations en masse, notamment entre le 28 juin et le 2 juillet. Il y en a eu moins cette semaine pour stopper du coup cette vague de colère contre les violences policières. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, par exemple, de mercredi à jeudi, il y a eu 150 arrestations. De jeudi à vendredi, 875. De vendredi à samedi, 1311. De samedi à dimanche, 719. Donc ça fait qu'au début de la semaine, on était à 3055 personnes qui ont été mises en cellule. Il y en a plus hein, depuis, même si les chiffres sont moins gros cette semaine. Donc, elles étaient emprisonnées, parfois violemment, souvent au hasard, parce qu'elles étaient dans un quartier où la police intervient ou à proximité d'une vitrine brisée. En parallèle, la police est en train d'identifier des personnes à partir des vidéos publiées sur Snapchat, notamment, et du coup on rappelle, hein, faites attention de ce qu'il y a sur vos téléphones, de ce que vous gardez sur vous, parce que la chasse des flics, elle n'est pas finie. Il y a d'ores et déjà des dizaines de procès expéditifs en comparution immédiate, avec des peines de prison ferme pour l'exemple, sans la moindre preuve. La justice prolonge ici vraiment la violence de la police, en exerçant sa besogne contre les pauvres et les révoltés. On a pu entendre, par exemple, comme type de phrase, votre faiblesse intellectuelle rend nécessaire une peine ferme. C'est donc avec ce genre de phrase qu'à Marseille, à Toulouse, à Bobigny, à Pontoise, à Nanterre, à Créteil, les juges ont distribué à la chaîne des années de prison ferme à des jeunes ayant participé ou non aux révoltes. Dans la lignée de la volonté du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et des premières comparutions immédiates qui ont débuté vendredi dernier, les jeunes comparaissent à la chaîne et on assiste ces derniers jours à une répression judiciaire particulièrement intense. Ce sont au moins 990 personnes qui ont été déférées devant la justice pour des faits liés aux émeutes depuis le 30 juin, dont 380 incarcérations selon les chiffres du 4 juillet. On a pu lire pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux, dans la presse. Là, on peut vous lire quelques témoignages qu'on a trouvés sur le site Révolution Permanente. À Marseille, une centaine de personnes ont comparu entre lundi et mercredi. Les scènes que rapporte également l'avocat Rafik Chekat sont complètement ubuesques. Nous jugeons aujourd'hui des personnes qui ont participé à des actions pour s'enrichir et faire tomber la société, s'exclame par exemple la procureure. Alors les fortunés en question sont poursuivis pour recel de vol de fromage et de lunettes, vol de vêtements footlockers ou encore de pièces de 50 centimes. Ils écopent quasiment tous de peines de prison ferme. Certains n'ont même pas pris de vêtements, comme cette jeune femme de 19 ans qui est simplement rentrée dans le magasin Snipes. Mais qu'importe, elle était sur place et condamnée à 4 mois ferme. Même sort pour cet homme de 58 ans qui a ramassé des objets par terre 3 heures après les pillages, qui a été condamné à 1 an ferme. Si on va du côté de Créteil, mardi après-midi, une grande majorité des personnes jugées écopent aussi d'un mandat de dépôt. Ça veut dire qu'elles vont dormir direct en prison. Pourquoi ? Pour vol d'un carton de bouteille de whisky, participation à un groupement en vue de commettre des violences, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est des dossiers qui sont particulièrement légers. Plusieurs sont condamnés sur le seul fondement des procès-verbaux des flics et on sait bien comme ils sont falsifiés. C'est par exemple le cas de 3 jeunes à qui sont reprochés des violences sur dépositaires de l'autorité publique qui sont condamnés à des peines de 8 à 18 mois de prison ferme sur la base des déclarations de policiers qui indiquent quand même dans leur PV d'interpellation ces sauvageons sont pris en charge. Voilà, du coup, en dépit d'une volonté des magistrats et des médias de dépolitiser les affaires, les échanges dans les couloirs des tribunaux et les salles d'audience sont éminemment politiques. La colère contre une police qui humilie, qui blesse et qui tue. À Bobigny, c'est dans une atmosphère lourde et une salle anormalement pleine, mais c'était le cas aussi à Lyon et dans plein d'autres tribunaux, que les audiences débutent mardi après-midi par exemple. Un jeune homme comparaît pour avoir été présent lors de la destruction du commissariat de Villepinte. Il explique clairement « J'ai fait ça pour venger Naël, parce que c'est une injustice ». À Créteil, un jeune homme de 18 ans qui s'apprêtait à débuter sa formation d'électricien est accusé d'avoir attaqué un commissariat. Il explique sa colère suite au décès de Naël. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une marche blanche plutôt ? Ce sentiment d'injustice n'a pas lieu d'être puisqu'une affaire judiciaire est en cours concernant la mort de Naël, plaide la procureure. C'est vraiment, en fait, il y a vraiment une violence. Je pense qu'il ne faut pas trop lire les phrases des procureurs non plus. Et du coup, cette personne, par exemple, elle a été condamnée à 3 ans de prison, 18 mois assortis d'un sursis probatoire et 18 mois ferme. La question des violences policières est omniprésente aussi dans ces procès. Pour cause, très nombreux sont les prévenus dont les blessures causées par les policiers lors de leurs interpellations sont encore visibles. À Créteil aussi, beaucoup des prévenus ont été blessés par la police. Un jeune livreur blessé par un tir de flashball, le juge demande « Pourquoi vous ne vous êtes pas réfugié chez vous après un tir de flashball ?» Il ne demande pas, par exemple, « Pourquoi est-ce que vous avez pris un tir de flashball ?» Il est finalement condamné pour violence sur policier. Ce qui frappe en assistant à ces audiences, c'est aussi le mépris hors norme des juges et des parquetiers. À Bobigny, un prévenu peine à entendre les questions de la juge dans son box en plexiglas. « Vous avez des problèmes de vue, mais aussi d'audition ? » Non, se moque la juge en faisant référence à son handicap d'un œil qui l'empêche de voir à 80%. Après, du coup, la juge, elle continue, elle dit « Vous pensez que vos parents sont fiers de vous ? Peut-être qu'ils ont honte ? » Alors les parents, ils signalent dans la salle. Et ils disent que non, bien sûr. Du coup, elle leur demande de se taire. Et après, elle reprend quand même l'argument des parents. Elle dit « Vos parents sont aides-soignantes et ambulanciers. Ils aident des gens, comme les policiers et les magistrats. Ça ne vous a pas inspiré ?» Malgré l'absence de casier judiciaire, il est condamné à 6 mois ferme avec mandat de dépôt. Et elle conclut « Votre faiblesse intellectuelle rend nécessaire une peine ferme. » La mère du condamné, sous le choc, crie « C'est ça la justice française. 6 mois pour mon enfant aveugle, pour une poubelle brûlée. » Voilà, c'était vraiment des petits exprès, mais en fait, je ne sais pas comment rendre la violence de ce qui se passe dans les tribunaux depuis une semaine. À côté du déploiement inédit des forces armées du RAID de l'Abri, c'est une justice d'exception qui s'abat sur les révoltés. Ce traitement s'explique par la volonté de l'État de briser le plus vite et le plus violemment possible la révolte qui a débuté le 27 juin suite au meurtre de Naël et qui a de quoi effrayer un gouvernement déjà fébrile. Mais il s'agit surtout du traitement qui est celui réservé aux habitantes et aux habitants des quartiers populaires. Si en période de révolte, cette violence judiciaire est exacerbée et dévoilée de manière plus brutale, il ne s'agit que de la continuité du traitement judiciaire habituel des populations qui subissent la répression pénale et la prison. C'est une justice qui est profondément raciste. Pour toutes ces raisons, la revendication de l'amnistie immédiate pour tous les révoltés incarcérés doit être une revendication impérative de l'ensemble des organisations politiques de gauche et des syndicats. Et là, on avait envie de vous lire un communiqué justement de l'Envolée qui appelle à l'amnistie pour les inculpés de la révolte populaire, parce qu'il est quand même assez bien écrit. Alors on commence. Contrairement à ce que tous les commentateurs serinent à longueur d'émission, les feux de la révolte en cours nous disent beaucoup. Notamment sur le système police-justice-prison, qui est là avant tout pour enfermer les pauvres, notamment les jeunes prolétaires racisés, quand ils ne les tuent pas. Face aux arrestations de masse de ces derniers jours, se rendre dans les tribunaux qui ont commencé à juger les révoltés et y porter la revendication d'une amnistie générale, c'est le moins qu'on puisse faire.
Il y a chez eux une dynamique qui les dépasse. En réalité, ils n'obéissent à aucun raisonnement rationnel. Tout ça, c'est entre guillemets. Assène le substitut du procureur de Nanterre après l'annonce des premières incarcérations. Au-delà d'un mépris social et d'un racisme, hélas, largement partagé, il est clair que lui a un intérêt direct à dépolitiser, désocialiser et animaliser les révoltés qu'il envoie au trou, puisque l'institution qu'il incarne est une des cibles de cette révolte populaire. On entend beaucoup parler des attaques des mairies, de commissariats et autres Lidl, moins de celles des maisons de justice, de la prison de Fresnes et de Réau, ou encore des bien mal nommés services de probation et d'insertion pénitentiaire, c'est les SPIP. À croire qu'intoxiqués à GTA ou pas, les gamins en révolte savent bien que la prison est faite pour eux. Comme elle l'était pour leurs parents qui ont connu le tournant sécuritaire des années 1980 et l'explosion de l'incarcération de masse. À croire que l'insertion, entre guillemets, n'est qu'un autre nom de la mise au travail de la jeunesse des quartiers populaires dans des conditions dégradantes.
La brutalité d'hommes en armes, quadrillant les rues, n'est que l'expression la plus visible de la violence d'État. Après le policier, c'est le juge qui prend le relais. Et après le juge, le maton. C'est la chaîne pénale, police, justice, prison. Comme celle de la police, la violence des cours de justice s'abat tous les jours, tranquillement, sur les classes les plus pauvres et les plus stigmatisées des quartiers populaires. Combien de Naël n'ont pas été filmés ? Peut-on lire sur les banderoles ? De 2014 à 2019, la police a tué en moyenne 25 personnes par an. Depuis, le nombre des morts entre les mains des forces de l'ordre a encore bondi, jusqu'à 52 décès en 2021 et plus de 40 l'année dernière. Et combien d'autres morts en prison ? Impossible de le dire. Là, il n'y a jamais d'image, évidemment. On pense à Sambali, à Jawad, à Idir, à Alassane, à Jimoni, à Taoufik, à Théo, à Gordana et tant d'autres. Prisonniers, prisonnières et proches le répètent à la radio ou dans notre journal depuis 20 ans. La violence des surveillants pénitentiaires s'abat tous les jours. Ils humilient, certains tabassent, certains tuent derrière les hauts murs des prisons de France, tout particulièrement dans les mitards et les quartiers d'isolement. Dans ces lieux, pas d'autres témoins que les caméras de surveillance et les agents connaissent tous les angles morts. Comme les policiers, ils sont couverts par leur hiérarchie et acquittés par la justice.
La phase judiciaire de la répression des mouvements sociaux ne produit pas d'images révoltantes, mais elle n'en est pas moins violente pour autant. Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, a d'ores et déjà sonné la mobilisation générale de la machine judiciaire pour écraser le mouvement. Il y a fort à parier que les chiffres de 2005, donc c'était 800 révoltés qui avaient pris du ferme en 3 semaines, et ceux des Gilets jaunes avec 1500 peines en 5 mois, seront largement dépassés. Sa circulaire à destination des parquets est d'ailleurs le décalque de celle qui visait le mouvement des Gilets jaunes, avec la criminalisation des parents en prime. Le ministre encourage le retour à l'infraction de participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Là, on est quand même sur un truc de groupement en vue de préparer quelque chose qu'on pourrait faire après. On est quand même au troisième degré de non-intentionnalité, bref, pardon, qui permet de condamner toute personne présente sur les lieux en l'absence de tout autre élément à charge. Les procureurs sont invités à déférer tout le monde systématiquement, même les mineurs. Ça va entraîner énormément d'incarcération, car les sanctions pénales qui suivent un déferrement sont généralement plus lourdes et plus brutales. L'augmentation du recours aux comparutions immédiates est exponentielle depuis les grandes révoltes de 2005, et lors des mouvements sociaux, elles sont utilisées massivement.
Le ministre demande aussi de faire remonter les chiffres tous les jours pour faire de la communication, pour éteindre le soupçon de cet introuvable laxisme judiciaire qui est invariablement invoqué par la droite et l'extrême droite. Car l'extrême droite armée est à l'offensive dans les médias comme dans les rues. Les mêmes syndicats de policiers qui demandent le respect de la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice pour leurs collègues exigent en même temps que la justice s'automatise encore plus pour ceux qu'ils qualifient de nuisibles, de hordes sauvages, de chiens-lits. Pour les éradiquer, ils exigent une fois de plus les pleins pouvoirs. Ils en appellent au réarmement de la police. Ce terme avait été utilisé par Marine Le Pen en 2017 après le viol de Théo par d'autres policiers fascistes. Juste avant, des flics avaient manifesté armés non loin de l'Élysée. Ils se chauffaient à l'époque. Aux élections suivantes, ils manifestaient cette fois devant l'Assemblée nationale pour dénoncer ce chimérique laxisme judiciaire. Déjà ministre de l'Intérieur, Darmanin les avait rejoints pour les assurer de son soutien. Fort de ces victoires symboliques successives, les syndicats Alliance et UNSA ont prospéré et assumé leur orientation fasciste au cœur de la police, mais aussi dans l'administration pénitentiaire. Les menaces séditieuses de ces jours-ci sont la suite logique d'une négociation au long cours, au cœur de l'État, pour qu'il durcisse le régime et arme toujours plus ses hommes déjà en armes. Ce qu'il fait d'ailleurs en déployant le RAID et la BRI qui tirent dans les rues.
Face à cette prise d'otage de l'État et des rues par ces bandes armées, c'est ailleurs qu'il s'agit de construire un rapport de force. S'il y a bien un endroit où il faut se trouver, c'est dans les tribunaux et devant les prisons, pour dire à la justice qu'on n'est pas d'accord, et pour que les gens se sentent moins seuls face à une institution entièrement dirigée contre eux. Déjà des réunions, des collectifs, des rassemblements s'organisent pour faire face à l'immense répression policière et judiciaire que l'État va continuer à déployer. Il y a eu près de 4000 arrestations en une semaine, et les premières perquisitions ont déjà eu lieu. Nous soyons nombreux et nombreuses devant les tribunaux et devant les prisons pour que l'autodéfense collective face à la justice fasse partie intégrante du mouvement.
Il nous faut trouver la force et la détermination nécessaires pour exiger l'amnistie de tous les inculpés, c'est-à-dire l'abandon des poursuites à leur encontre et leur libération immédiate. Celles et ceux qui ont pris part au mouvement social contre la réforme des retraites, celles et ceux qui se mobilisent contre la dissolution des soulèvements de la terre, les organisations de gauche et de défense des droits de l'homme peuvent trouver là le moyen de se solidariser en acte avec les révoltés. Dans la rue, la révolte populaire a déjà pris pour cible la chaîne pénale qui sert à enfermer principalement celles et ceux qui subissent de plein fouet la violence économique, tout en couvrant la violence de ses agents. Un tel mot d'ordre d'amnistie générale serait un premier pas pour gripper la machine judiciaire qui enferme chaque jour les enfants des colonisés, les étrangers et les pauvres des quartiers de France. Que tous n'en peuvent plus d'être stigmatisés, emprisonnés et pris pour cible. Voilà, du coup, c'était un communiqué de l'envolée. Que vous dire ? On pourrait vous en parler pendant des heures, hein, de ce racisme d'État et de cette violence des institutions comme voilà, on traîne sur internet et qu'est-ce qu'on lit, ben que du coup les flics qui étaient dans le tribunal à Lyon, ils avaient des tatouages néo-nazis. Peut-être ce que vous dire que du coup, comme dit l'appel de l'envoyé, il y a quand même des gens qui essayent de s'organiser pour dire que tout ça c'est pas ok. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les modes d'organisation. Il y a notamment eu un appel unitaire à faire des marches soit le 5, c'est déjà passé ça, soit demain, soit aussi plutôt vers le 14-15 juillet, et qu'il y a une réponse aussi de deux personnes pour les collectifs de la marche des solidarités qui disaient pourquoi cet appel unitaire. Il pourrait aller plus loin, et peut-être qu'on peut finir par donner la parole à Azoumane Sissoko et Mathieu Pastor pour les collectifs de la marche des solidarités. Sans justice, pas de paix. En mémoire de Naël, en solidarité avec ses proches, contre le racisme et les violences policières, la marche des solidarités appelle à participer aux initiatives des 8 et 15 juillet. Nous appelons aussi à un défilé internationaliste le 14 juillet contre le projet de loi Darmanin et contre le racisme. Mais nous ne signons pas l'appel unitaire qui circule actuellement. D'où que l'on vienne ou que l'on soit né, notre pays s'appelle Solidarité. Face au fascisme et aux violences policières, pour exiger justice pour Naël, comme pour les autres victimes de crimes policiers, pour exprimer la solidarité avec la jeunesse révoltée de nos quartiers, il y a besoin de la riposte la plus large possible. Donc la marche des solidarités appellera donc à toutes les initiatives qui iront dans ce sens et souhaite continuer à participer au cadre permettant de les discuter et de les organiser. Par ailleurs, comme je l'ai dit, nous invitons toutes les organisations, signataires ou non, à participer le 14 juillet prochain au défilé internationaliste et antiraciste qui sera ouvert par les tirailleurs et tirailleuses d'hier et d'aujourd'hui et les collectifs de sans-papiers à Paris. Mais la marche des solidarités ne signe pas le texte unitaire actuel pour les raisons suivantes. Nous refusons la phrase « l'escalade des violences est une impasse et doit cesser » qui met dos à dos la violence d'État et la révolte des quartiers. Ce qui doit cesser, c'est la violence d'État. Nous pensons que l'absence dans ce texte de l'exigence d'abandon du projet de loi raciste et sécuritaire de Darmanin est une erreur. La politique raciste du gouvernement, argumentée à partir de l'équation immigré égale délinquant, est celle qui tue aux frontières comme dans nos quartiers. Elle nourrit tous les délits racistes et sécuritaires et légitime les violences policières. Nous regrettons l'absence d'exigence de relax et de libération immédiate de tous et toutes les jeunes arrêtés. Nous regrettons l'absence d'un appel à l'unité de toutes les organisations et collectifs pour s'opposer aux ratonnades de plus en plus fréquentes organisées dans les rues de nos villes par de véritables milices fascistes. Voilà, c'était un communiqué qui est court, mais que je trouve qui permet aussi de recadrer dans quel cadre de violence systémique on est actuellement.
Et du coup, et ben, si vous êtes à Nantes, vous pourrez, il y a une marche demain à 14h, il y en a aussi une à Persan, il y en a une à Angoulême, et surtout il y en a une à Lyon, où le rendez-vous est donné à 15h à la gare de Vénissieux, vous trouverez facilement le communiqué. Et c'est, pour conclure, peut-être l'occasion de rappeler, ben, effectivement, quand vous voyez des flics... qui sortent de leur voiture, voire avant, s'ils sont en train de poursuivre quelqu'un, n'hésitez pas à les filmer si vous n'avez pas de quoi vous faire emmerder par eux après.
Gendarme, dans ta tête c'est la prison ferme. c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs mille lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, marche-toi. T'es la personne que l'on déplore, d'une secte de vétard, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, ils votent pour une seule tunique. Déteste ton poupou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bistec, que ces ports dissèquent. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite.
Et c'était Kazé, ou plutôt le groupe Osgang, qui nous interprétait Bonne Conduite. Et ben, on va continuer un peu dans les nouvelles bien pourries, et toujours dans ces dynamiques très fortes de discrimination, en parlant de Amara... Pardon. Dioumassi, pardon, qui est mort au travail le 16 juin dernier. Il avait 51 ans. Amara, il bossait sur un des chantiers. Alors, c'est un peu tricky, mais pas exactement pour les JO, parce que les JO auraient pu exister sans ça, mais que quand même, c'est les genres trucs où la mairie de Paris se félicite de la présence des JO pour pouvoir, du coup, là, en l'occurrence, construire une espèce de gros bassin qui retient de l'eau à un endroit pour pouvoir le rebalancer dans la Seine pour que la Seine puisse être baignable. Voilà, c'était un peu ça le projet. Du coup, Amara, il bossait sur son chantier, il était en CDI depuis longtemps, et au moment de ce... Il avait fini son service, donc il était sur le chantier, il était en train de partir, et en fait, il y a une camionnette du chantier qui a reculé et qui l'a écrasé. Alors, ce qu'il faut voir, vous pouvez trouver des photos, entre autres, sur Mediapart. Le chantier, il est juste à côté d'une 2x2 voies, donc il y a un bruit de ouf toute la journée, et effectivement, la camionnette qui recule, c'est sûr qu'il l'a pas entendu, et que la dite camionnette, évidemment, n'était pas équipée des bips obligatoires quand on recule avec des véhicules sur un chantier. Voilà, ce qui est un peu terrible, c'est que on voit que voilà, encore ce gars-là, il est mort pour les JO. C'est quand même ça qui est terrible. Il est mort dans le cadre du travail pour une grosse boîte de BTP par ailleurs. Et surtout, c'est qu'effectivement, en vrai, tout le monde s'en foutait avec ce chantier. Il y a Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, qui s'était pointée sur le chantier pour tweeter des trucs à la con sur les baignades dans la Seine. C'est trop bien, c'est super. Ça, c'était 3 jours avant la mort d'Amara sur le même chantier. Par contre, elle s'est pas dit, ah tiens, il y a des problèmes de sécurité. En fait, les mecs, là, ils bossent sur un truc hyper exigu, tout serré. Il n'y a pas de signalisation. On sait pas où est-ce que les gens peuvent marcher, où est-ce qu'il y a les véhicules qui circulent. Ça l'a pas dérangé. Du coup, bah voilà, à cause de ces conneries-là, alors le chantier a été suspendu, donc là, effectivement, on a eu un petit tweet qui disait « Mon Dieu, c'est terrible !» Et comme quoi, bizarrement, bah là, il y a un type qui est mort, donc il y a eu une petite pression de mise, et quelques jours après, bah, il y avait une signalisation correcte, et en fait, juste les éléments de sécurité minimaux qui étaient mis en place, à cet endroit. Ce qui est pas complètement inintéressant, c'est de voir aussi d'autres personnes qui viennent se positionner, puisque ça, comme je disais, c'est pas un chantier directement lié au JO, et que sur les chantiers des JO, il y a une grosse pression en fait de mise pour qu'il y ait quand même des conditions minimales de sécurité, et entre autres, il y a une responsabilisation des employeurs, où pour le coup, la mairie de Paris, qu'on félicitera pas trop systématiquement, mais à rappeler en fait, s'il y a des merdes sur vos chantiers, on va vous nommer et on va dire c'est vous qui avez foutu la merde parce que vous respectez pas les conditions de sécurité. Et bizarrement, quand on met un tout petit peu la pression à Vinci, etc., et qu'on leur dit, en fait, s'il y a des morts, ils vous seront imputés publiquement, là, d'un coup, il y a vachement plus de mesures de sécurité, et par ailleurs, c'est surtout de se dire, en fait, il y a eu quand même un peu des moyens investis, du coup, il y a moins d'accidents sur ces chantiers, parce que dès qu'on a un petit peu envie qu'il y ait moins d'accidents, c'est surtout ça que ça vient montrer. En fait, c'est pas très compliqué, et il suffit d'investir un petit peu pour essayer de protéger les travailleurs, les travailleuses. Voilà, et bah, quoi qu'il en soit, bah, ça, c'est bien, parce que pour les JO de Paris, du coup, il ne faut pas trop qu'il y ait d'esbrouf. Donc, il y a eu un petit effort de fait sur ces chantiers-là, parce qu'ils ont bien senti qu'avec tous les gens qui crèvent sur le chantier du Grand Paris Express, ça commence à sentir un peu le roussi et que ça allait écorner, évidemment, l'image des JO. Hein. On n'est pas naïf, ce n'est pas du tout pour protéger la vie des travailleurs, des travailleuses. Ce que c'est fait, ça, c'est pour protéger leurs Jeux Olympiques. Mais que, bah voilà, Amara, il n'a pas eu la chance d'être sur un chantier assez bling-bling pour la mairie, pour bénéficier d'un inspecteur du travail qui vient régulièrement et conditions de sécurité suffisante pour pouvoir bosser sans crever. Et du coup, et bah, il est mort à 51 ans, écrasé par une camionnette sur un chantier pour rendre la Seine baignable pour les JO.
Et on va aller du côté des mobilisations. On reste dans le secteur du travail, mais là, de gens qui se mobilisent, notamment dans les services publics, qui se mettent en grève pour alerter sur le manque de moyens et la dégradation des conditions de travail, qui pénalise évidemment les usagers et les usagères, mais aussi les travailleurs et les travailleuses. Et particulièrement dans le secteur du soin, on va commencer par Lyon, où la fermeture du centre de santé Sévigné a été annoncée cette semaine. Le Fonds dispensaire général de Lyon, dont la vocation est le soin aux personnes les plus fragiles, a décidé de fermer ce centre du 3e arrondissement pour redéployer son personnel et ses activités sur les deux autres centres à Gerland et à Vaux. Alors que l'accès aux soins se révèle de plus en plus compliqué, y compris au cœur de Lyon, la décision de la fermeture du centre Sévigné dans le 3e a de quoi surprendre. La Fondation Dispensaire Général de Lyon a décidé de fermer début 2024 ce centre, accueillant les populations les plus fragiles depuis son ouverture en 1818, et de vendre ses locaux. Informé en avril, la douzaine de médecins du centre ont fait grève du coup hier matin pour dénoncer cette fermeture et demander un rendez-vous à la mairie du 3e et à l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé, afin de trouver une solution pour poursuivre leurs activités. Nous sommes un des seuls centres sur Lyon à pratiquer le tiers payant en médecine spécialisée et les seuls à proposer des délais de rendez-vous raisonnables en cardiologie, rhumatologie, gynécologie, en plus des consultations non programmées. Nous assurons 100 000 consultations par an, souligne le docteur André-Marc Siro, délégué syndical CFE-CGT. Si le personnel et les activités seront redéployés sur les deux autres centres de la Fondation à Gerland et à Vaux, le docteur Siro estime que les personnes âgées ne prendront pas le tram et le métro pour aller à Gerland. Selon lui, cette fermeture ne fera qu'encombrer davantage les services d'urgence où se dirigeront les plus précaires, comme les personnes sans domicile fixe ou les demandeurs et demandeuses d'asile. Nous suivions ces patients et ces patientes, les associations nous les envoyaient, nous avions des bons traducteurs car beaucoup ne parlent pas français. Voilà, en gros, ce qu'on comprend, c'est encore toujours plus la destruction des services publics, des services gratuits et des services accessibles. Ça se retrouve un peu partout, hein, parce que du coup, bah là, c'est l'exemple de Lyon, parce que la mobilisation, elle a eu lieu hier, et parce que bah, ça fait encore un centre de santé qui ferme au cœur de la ville et que ça devient vraiment problématique. Mais lundi et mardi, c'était tous les syndicats des médecins de l'hôpital public qui appelaient à la grève, qui revendiquaient une revalorisation des gardes de nuit et de meilleures conditions de travail, parce que pareil, à l'hôpital, les conditions de travail se dégradent de manière dramatique. on peut retrouver ouais c'est ça, c'est de partout, ça c'était vraiment dans toute la France, mais si on retourne encore à Lyon par exemple, à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, il y a encore une vingtaine de lits qui ont été supprimés pendant le mois de juin. Depuis quelques mois, la structure a recours à des prestataires extérieurs pour sa médecine du travail, les médecins du travail de l'établissement ayant claqué la porte. Enfin, il y a encore un point de non-retour dans les conditions de travail de ces structures qui sont catastrophiques. Donc voilà, personnel hospitalier, psychiatrie publique, les centres de santé, les personnes se mobilisent, mais les services publics sont surtout détruits. On peut noter dans un autre secteur, on vous a beaucoup parlé de la justice, des greffiers qui sont mobilisés. Alors ils ne sont pas mobilisés pour dénoncer le meurtre de Naël, ils sont mobilisés pour leurs conditions de travail, mais bon, c'est toujours ça. Ils sont en colère, ils se sentent méprisés et leurs revendications sont notamment autour de la question des salaires. Voilà.
Et puis on peut dire aussi, entre la justice, justement, la police et le soin, qui n'est pas directement une destruction du service public, mais quand même qui est encore une destruction de nos droits. En même temps, la loi, vous savez, la fameuse loi pour activer les téléphones pour que ce soit des mouchards, etc. Il y a quelques petites lignes qui viennent dire que quand on demande d'avoir un médecin en garde à vue, eh ben, ça pourrait bien être une téléconsultation, comme ça on est vraiment tranquille. La téléconsultation, c'est super, vraiment, dans le cadre d'une garde à vue, c'est vraiment l'idéal. On remercie encore pour tout ça et des services publics qui roulent.
À la question du manque de logement, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que, n'est-ce pas?
Écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
Et alors, ouais, quand même, on a essayé de dénicher une petite bonne nouvelle pour ce soir, parce que c'est quand même franchement un peu raide de faire des infos et de raconter tous les trucs horribles, là, avec en particulier la semaine quand même un petit peu dure qui vient de se dérouler. Du coup, on va vous parler de cadastre.squat.net. Alors, il y a un petit communiqué, on va vous le dire, finalement, c'est le plus simple. Quand on veut squatter des bâtiments vides, c'est parfois pratique de savoir à qui les bâtiments appartiennent. Et en France, pour répondre à de telles questions, que qui possède ce bâtiment ou quels sont les terrains appartenant à la mairie de ce village, la solution officielle, c'est d'aller demander un extrait de cadastre à la mairie locale, ce qui n'est pas toujours très pratique et par ailleurs pas toujours très discret. C'est là qu'intervient cadastre.squat.net, le nouveau cadastre en ligne pour les squatteuses. Cette carte interactive affiche toutes les parcelles cadastrales appartenant à des personnes morales, donc des entreprises, des assos, l'État, enfin bref, tout ce qui n'est pas un particulier finalement, et à l'échelle de la France métropolitaine et outre-mer. Elle permet de filtrer les parcelles par département, commune, propriétaire, référence cadastrale ou simplement de zoomer sur un coin qui vous intéresse pour voir qui y possède quoi. Notez que les parcelles appartenant à des particuliers ne sont pas affichées, pour ça il faut toujours aller à la mairie. De plus, les données aujourd'hui, donc c'est les données du 1er janvier 2022, on les mettra à jour dès qu'on pourra, mais la carte aura toujours entre 1 et 2 ans de retard sur la situation réelle. On fait de notre mieux pour nous assurer de la fiabilité des données affichées par la carte, mais il se peut que quelques erreurs se soient glissées, on n'est pas des pros. Pour contacter les cartographes à l'origine de cette carte, vous pouvez envoyer un mail à H comme Hélène et M comme Michel, 123@riseup.net. Du coup, tout ça pour dire que finalement, un petit cadastre et pas être obligé de déjà s'enquiquiner à aller à la mairie, c'est un peu moins rodé. Et effectivement, même si les données, elles ont 2 ans, il y a quand même un certain nombre de trucs qui bougent genre quasiment jamais. Et que c'est quand même plutôt pratique de pouvoir faire ça depuis son ordinateur tranquillou. Merci à ces personnes.
Je vais revoir un rouminet.
Oh, c'est les rubriques animaux. En fait, il y a une deuxième bonne nouvelle parce que quand même, on essaie de se réjouir. En vrai, peut-être c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un petit peu mignon. Alors, on va vous parler de la tortue Kaouan. Alors, c'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce de tortue, c'est une tortue tout court. Elle fait plus ou moins 1 mètre de long, 130 kilos. Donc, c'est quand même une jolie tortue. Quoi. On n'est pas sur... c'est pas la petite tortue que vous pouvez voir chez des personnes qui ont envie d'enfermer des animaux dans des aquariums, là, comme ça. On est sur un beau... une belle tortue. Exactement. Et bah du coup, la tortue Kaouan, elle a pondu pour la première fois depuis... en fait, on ne sait pas vraiment quand, mais ça fait au moins 50 ans, voire peut-être depuis toujours. Mais a priori, les gens qui sont censés savoir sont pas capables de dire. Et comme nous, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, on va pas dire ça. En tout cas, elle est venue, elle a pondu vers Nice. Du coup, j'essaie de vous retrouver. Voilà, c'est une plage de Villeneuve-Loubet. Et du coup, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de dire que la tortue, elle a pu pondre. Alors, on va en profiter quand même pour glisser un petit tacle. En fait, elle est venue, il y a des gens qui sont venus l'emmerder, cette tortue qui venait tranquillement sur la plage pour pondre ses œufs. Du coup, elle est repartie et après, elle est revenue quand les gens sont partis. Donc, éventuellement, si vous croisez une grosse tortue comme ça, ça se voit, laissez-la donc tranquille. Elle n'a pas besoin de vous pour faire sa vie, voire elle a besoin que vous ne soyez pas là pour faire sa vie. Voilà. En tout cas, bah, ça a été vu. Pour la petite histoire, du coup, après avoir pondu ses œufs dans le sable, du coup, elle fait des tour autour pour cacher, pour pas que les prédateurs le voient, mais que comme ça a été situé, le site est sécurisé, et du coup on sait pas si c'est drôle ou pas, mais on va choisir d'en rire. On sait, c'est vers Nice, c'est vers chez Ciotti, là-bas du coup il aime beaucoup les caméras, donc il y a une petite caméra qui est pointée vers les œufs pour voir au cas où qu'ils éclosent ce qui se passe. Voilà, éventuellement c'est la moins pire de toutes les caméras qu'il peut y avoir là-bas. En tout cas, bravo à cette tortue finalement, qui est peut-être une pionnière, une pionnière dans le monde des tortues. Et voilà, bravo à elle.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda!
Et alors, ça vous aura pas échappé, il y a un petit air d'été et de vacances. Alors du coup, l'agenda, il n'est pas hyper rempli, mais on peut quand même vous dire que demain, de 14h à 23h, il y a la Guy se parle avec des micros ouverts, des causeries, des concerts. C'est plutôt organisé par, entre autres, par le bar Les Clameurs. Voilà, c'est tout l'après-midi, c'est soit sur la place Mazagran pour des micros ouverts, soit aux clameurs. N'hésitez pas à y aller, mais peut-être vous aurez autre chose à faire, parce que quand même demain, on vous l'a dit, mais on va le redire, ça nous semble un petit peu important. Il y a un rendez-vous à 15h à Gare de Vinicieux, du coup avec une marche pour Naël ou contre les meurtres policiers. On vous renvoie une fois encore au texte unitaire, donc c'est bien à 15h à la Gare de Vinicieux. Et quand même, et bah parce que le 14 juillet c'est férié, du coup a priori il y a moins de gens qui travaillent, du coup il y a une super soirée de soutien à Rébellion, et ça c'est le 13 juillet, ça commence à 19h, c'est jusqu'à 3h du matin. Alors il y aura de la musique, de l'hyperpop, j'ai lu ça, alors moi je sais pas ce que c'est, mais ça doit être hyper bien, et en tout cas ça a l'air vraiment super, et comme ils disent sur leur propre site finalement, comme chaque année c'est à l'occasion de l'anniversaire de l'émeute de la prise de la Bastille, Rébellion vous convie à une fête, insérer un mot jeune et positif ici, et comme chaque année, ça va être super. Voilà, et on pourra vous dire, on n'a pas plus d'infos, mais voilà, le 15 juillet, il y a une marche organisée par la Coordination Nationale contre les Violences Policières qui va arriver. On vous en dira plus si on en sait plus, et sinon, soyez vigilants et vigilantes.
Radio Canu!
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à
Canu Info du vendredi.
Bonjour Pierre, et oui, il n'est jamais trop jeune pour savoir ce que ça veut dire ACAB. Eh bien écoute, les auditeurs et auditrices ont toujours encore appelé aujourd'hui pour dire ce que ça veut dire ACAB, et notamment ça pourrait vouloir dire arrêtons les chantiers et allumons les brasiers.
Et sinon, il y a des personnes qui proposaient que ça puisse dire avoir un cadastre autonome, c'est bien. Voilà, et ben écoutez, il est 19h50, il vous reste 10 minutes de répit avant votre émission de métal du vendredi qui n'est autre que Noise Pollution. Nous, on vous dit à la semaine prochaine ou peut-être à plus tard parce qu'il y a quand même un petit peu des vacances, donc à bientôt. Mais...
Vous pouvez réécouter nos meilleures émissions de l'année sur le site de Radio Canu, sur les blogs de Radio Canu. Notamment ces derniers mois, on a fait pas mal d'entretiens sur des sujets de fond. Du coup, on vous invite à aller sur le blog des Canu Info aussi pour écouter nos petits camarades ou nous-mêmes.
Eh ben, bonnes vacances.
Bon été en tout cas.